toujours très heureuse de vous retrouver dans votre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Bienvenue à tous. Dans 48 heures, la France accueillera une cinquantaine de dirigeants et personnalités du monde entier pour un sommet climat. Deux ans après la COP21, l'accord de Paris sur le changement climatique. Une femme a été l'une des architectes, la cheville ouvrière de cette COP21. Elle s'appelle Laurence Tubiana. Elle participera bien sûr au sommet de Paris mardi prochain. Elle est notre invitée aujourd'hui. Alors tout de suite, pour ouvrir cette émission, notre rubrique instantanée, vous allez découvrir un court extrait d'une bande-annonce d'un film. C'est la suite du célèbre documentaire « Une vérité qui dérange » sur les dérèglements climatiques. Une cause dont s'est saisi l'ancien vice-président américain Al Gore et pour lequel il a reçu le prix Nobel de la paix. Voici ce document.
Les tempêtes sont de plus en plus violentes et dévastatrices. Vous voyez des déluges qui s'abattent sur la ville. Ça, c'est le réchauffement climatique. La génération suivante serait en droit de nous demander « Qu'est-ce qui vous a pris? Vous ne pouviez pas écouter ce que disaient les scientifiques? Vous n'entendiez pas les cris de la nature ?» Ne laissez personne vous dire qu'on va tous monter à bord de fusées et aller vivre sur Mars. Notre maison, c'est ici.
Bonjour, Laurence Tubiana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez une phrase que vous dites souvent, « Les petites peurs tuent l'esprit ». Mais quand on voit ces images et sur le dérèglement climatique, est-ce qu'il n'y a pas de quoi être terrifié? Et est-ce qu'on peut parler de catastrophisme ou alors on est vraiment au bord de la catastrophe?
On peut avoir peur du changement climatique, absolument, parce que les menaces sont vraiment... impressionnante à la taille, à leur violence. En même temps, quand on a seulement peur, on n'agit pas nécessairement. Surtout que, et du coup, oui, la peur tue l'esprit parce qu'elle ne permet pas d'agir. Elle est un aiguillon pour se rendre compte, mobiliser ses forces. Mais si on ne sait pas où aller, on subit. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette phrase.
Mais vous, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez?
Je trouve que... Je suis frappée, c'est-à-dire je sens l'urgence et en même temps je sais que seulement en parlant de l'urgence, ça ne va pas faire avancer les choses. Donc, mais c'est vrai que cet avenir qui est sombre, ces prédictions, enfin ces probabilités que nous dessinent les scientifiques sur le futur climatique nous paraissent sont angoissantes. Mais je pense qu'on est embarqué. Il y a une très belle phrase de Nelson Mandela qui dit « On est prisonnier de l'espoir, on ne peut rien faire d'autre de toute façon, donc il faut y aller. » Voilà.
Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose ce focus sur votre parcours. Il est signé Sébastien Bory et Anthony Krizik.
Quelque part dans cette foule, une diplomate encore méconnue ne parvient plus à convaincre. Non, Laurence Tubiana, vous et la délégation française ne pourrez pas éviter l'échec de cette conférence climat de décembre 2009 à Copenhague. Votre plaidoyer, publié quelques jours avant dans la presse, reste donc lettre morte.
Donc après cet échec de Copenhague, ça a été vraiment, je peux vous dire, la déprime.
Déprimée, certes, mais pas démobilisée. Née en Algérie, vous êtes docteur en économie, conseillère en développement et en agriculture pour le gouvernement français. L'environnement s'impose naturellement à vous au début des années 2000 et c'est en basket que vous affrontez l'urgence climatique depuis 20 ans.
Les inquiétudes, oui, bien sûr, parce que tout dépend, parce qu'on joue contre la montre, on est en retard.
Ancienne militante d'extrême gauche, vous devenez l'une des ouvrières du succès de l'accord de Paris en décembre 2015.
Il y a une grande confiance dans la présidence française, on le sent.
Mais il y a aussi du plomb dans l'air. Quelques mois plus tard, Donald Trump retire l'Amérique de l'accord de Paris. Et à vous entendre, il s'agirait presque d'une bonne nouvelle.
Donald Trump a réussi à faire du climat qui était depuis 2015, tout le monde était content, donc on allait appliquer une question technique, entre guillemets, industrielle, technologique, une question politique majeure.
Rarement candidate à une élection, vous semblez faire de la politique autrement à la tête de la Fondation européenne pour le climat. Mais dans cette course pour la planète, il est peut-être trop tôt pour savoir si le souffle sera suffisant face aux climato-sceptiques.
Laurence Tubiana, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui va vraiment se passer concrètement à ce sommet du 12 décembre, dans 48 heures à Paris? Il est consacré aux enjeux financiers du défi climatique. Vous, quelle va être votre mission cette fois-ci et que peut-on en attendre très concrètement?
Alors ce sommet, il faut le comprendre dans une séquence. Depuis Paris et les engagements que les pays ont présentés en décembre 2015 et l'accord que nous avons tous signé, on voit qu'il y a un décalage entre ce que les pays ont proposé comme plan climat d'ici 2030 et les objectifs globaux de l'accord de Paris qui demandent des actions beaucoup plus importantes, beaucoup plus radicales, très rapidement. Et donc, tout l'enjeu de la séquence politique qui s'ouvre aujourd'hui et qui se terminera en 2020, c'est de convaincre tous les pays, et avec eux les entreprises, les villes, les régions, que les propositions mises sur la table en 2015, eh bien, on peut les revoir à la hausse, on peut faire mieux parce que beaucoup de choses sont arrivées. D'abord, cet accord de Paris, puisque les propositions des pays ont été présentées juste avant qu'on sache ce à quoi les pays s'engageaient vraiment, parce que les technologies ont évolué et que les prix des technologies, notamment des énergies renouvelables et beaucoup d'autres technologies autour, ont vraiment encore baissé, et puis parce que tout le monde s'y met, donc c'est beaucoup plus facile.
Mais vous, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire concrètement à l'occasion de ce sommet? Quel est votre rôle?
Alors, j'ai un rôle très particulier, puisque je ne suis plus dans le gouvernement, évidemment. Donc moi, ce que j'ai proposé à Emmanuel Macron, c'est de rencontrer les philanthropes, le milieu dans lequel je travaille aujourd'hui.
Lesquels, par exemple?
Alors, Michael Bloomberg, Bill Gates, Nat Simon, Chris Owen, Richard Branson et quelques autres, qui vont se réunir autour du président mardi matin pour lancer un appel à ce que la philanthropie aide davantage en matière de financement pour le climat, puisque c'est le sujet du sommet.
Bon, très bien, mais alors là vous parlez de démarches volontaristes. Maintenant je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce décalage qu'il y a peut-être que vous mentionnez tout à l'heure. On a parlé il y a 2 ans d'un accord contraignant. On l'a présenté comme ça, un accord historique et contraignant. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on ne peut pas dire qu'en fait, réellement, cet accord, ce texte, il n'y a rien de contraignant? On est là à attendre que les philanthropes, maintenant, se manifestent.
Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation, évidemment. Donc, l'accord de Paris, il est contraignant sur les procédures de cet accord. Il y avait des aspects contraignants dans cet accord et des aspects non contraignants. Qu'est-ce qui est contraignant? C'est le fait que les pays remettent des contributions des plans climat, qu'ils acceptent que ces plans soient vérifiés par d'autres, et que tous les 5 ans, on revienne sur la table et on accroisse l'ambition de ces plans climat. C'est ça l'accord de Paris, la partie contraignante. Donc tout le monde doit le faire.
Mais quel est le sens du mot contraignant quand il n'y a pas de sanction possible?
Mais vous savez, dans le droit international, enfin, citez-moi un accord, à part peut-être le protocole de Montréal et qui concerne juste les sanctions commerciales, les accords internationaux, parce qu'on n'a pas de gouvernement mondial et on n'a pas beaucoup de justice mondiale, ils sont quand même laissés à la volonté des États d'être corrects. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant, d'ailleurs, dans ce qui vient de se passer avec le retrait américain de l'accord de Paris. Bien sûr, il n'y a pas de sanctions. Mais ce qu'on voit, c'est que beaucoup de citoyens américains, et notamment certains États américains, des villes, des universités, des entreprises, des citoyens, se disent les États-Unis ont signé cet accord, peut-être que le gouvernement de Washington, à qui on a donné notre souveraineté, à qui nous représente, ne le fait pas, eh bien nous allons le faire. Et à Bonn, la délégation américaine de la vraie société, enfin c'était,
Bonn, c'était la COP23.
Voilà, on dit, nous on va remplir les engagements américains. Donc il ne faut pas sous-estimer le caractère vraiment d'engagement que représente l'accord de Paris. Et je vois d'ailleurs que tous les pays sont en train de faire leur plan climat.
Laurence, si je comprends bien, le sommet de Paris sera beaucoup, il sera beaucoup question de financement, et vous parliez des philanthropes. Mais moi j'ai lu cette semaine l'appel des 80 économistes à désinvestir de l'industrie carbone. Est-ce qu'on pourrait, au lieu de tout le temps ajouter de l'argent à l'argent, des financements, des investissements, des promesses, etc., parler plutôt de désinvestissement, est-ce que ça ne serait pas plus efficace parfois? Moins d'argent pour le pétrole, d'argent pour...
C'est ce qui se passe. Enfin là, vous me demandez ce que je faisais. Moi, je fais un tout petit bout de ce sommet, puisque ce n'est pas moi qui suis en charge. En revanche, vous verrez que mardi, il y aura beaucoup d'annonces sur ces désinvestissements. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui vont venir dire qu'ils ne feront plus d'énergie fossile dans un laps de temps déterminé, certains tout de suite. C'est le cas. Alors, je ne peux pas dévoiler les annonces parce que ça se passera mardi.
Mais donnez-nous des pistes, peut-être.
Ben voilà, il y a la plus de grands, 100 très grands investisseurs institutionnels qui vont déclarer qu'ils n'investiront plus dans les énergies fossiles. Ils désinvestissent. Et puis, il y aura d'autres annonces de ce type, des grandes compagnies d'assurance qui vont montrer qu'elles aussi, elles vont laisser complètement le charbon et les hydrocarbures. Donc, en fait, le mouvement majeur, il est là. De même, ce qui est très important, c'est que on arrive à, dans tous les pays, rendre obligatoire, et sinon de faire que les entreprises s'engagent, à publier le risque carbone, c'est-à-dire en quoi elles sont, au fond, très liées à cette consommation d'énergie fossile.
Alors justement, parlons des énergies renouvelables. La France qui organise, qui a organisé la COP21, qui organise ce sommet climat, elle est en queue de peloton en ce qui concerne ces énergies renouvelables. Est-ce qu'elle ne devrait pas être exemplaire, justement? Et pourquoi elle l'est d'ailleurs en queue du peloton?
Alors pour des tas de raisons, en partie parce que c'est vrai qu'on a cette grande partie de l'électricité qui est fournie par le nucléaire et qu'il faut arriver à trouver ce que me semble être la direction qui est aujourd'hui recherchée, la combinaison entre cette énergie nucléaire et les renouvelables et les rendre compatibles entre elles. Ce qui il y a 10 ou 15 ans ou même 5 ans paraissait invraisemblable, ça paraissait alternatif, où on avait du nucléaire, où on avait des renouvelables. Il me semble que là, la réflexion porte là-dessus. Il y a surtout que les émissions... c'est essentiellement les émissions de transport qui sont liées au transport qui augmentent en France.
Les camions,
les marchandises, les voitures, c'est ça qui augmente. Et donc c'est pour cela que je crois que l'électrification ou le mouvement vers une mobilité sans carbone est très importante aujourd'hui pour les pays.
Dans les renouvelables, justement, Laurence Tubiana, bon, la France a un peu raté le coche du solaire. Qui a été pris par d'autres pays, l'Allemagne, la Chine, etc. Et maintenant, on a l'impression que c'est l'éolien qui est en train d'être raté pour tout un tas de raisons réglementaires, au sol, en mer, etc. Est-ce que c'est impossible de mettre en place une filière renouvelable un peu sérieuse en France ?
Moi, je crois pas. Il faut quand même... Bon, il faut prendre des décisions, il faut simplifier les procédures. Je crois quand même que sur l'éolien offshore, on va y arriver. Alors, l'éolien offshore, c'est vrai qu'il y a des tas de conflits sur le paysage, des gens qui ont des visions différentes. Mais il faut qu'on y arrive. Il faut que les citoyens réfléchissent sur...
Parce que c'est ça le problème. Les particuliers, les citoyens sont assez rétifs à l'implantation des éoliennes. Voilà.
Oui,
comment les convaincre ?
C'est pas vrai partout. Et en même temps, justement, d'où l'effort, de ce que je comprends, de développer l'éolien offshore, notamment dans les eaux.
C'est-à-dire en mer.
En mer.
Et là, vous pensez que ça va aller beaucoup plus facilement ?
Oui, c'est plus cher, c'est plus difficile, mais les coûts de cet éolien en mer sont en train de baisser, parce que beaucoup de pays s'y sont lancés, nous aussi. Mais c'est vrai que la France doit se mobiliser vraiment beaucoup sur les énergies renouvelables.
Oui, mais Laurence Toubiana, vous disiez que sur le nucléaire, vous trouvez que ça va dans le bon sens, mais il y a eu des annonces du gouvernement qui ont plutôt ressemblé à une reculade sur ce plan-là. Est-ce que ça ne va pas un peu décourager les acteurs des énergies renouvelables ?
Je crois qu'on va voir, puisqu'on va attendre la manière dont le gouvernement, et Nicolas Hulot en particulier, met en place ce plan climat. Bon, il faut lui faire crédit, il a dit qu'il allait le faire. Le plan climat est plutôt le plan zéro carbone, pour 2050 est plutôt bien fait. Maintenant, il faut voir. Alors, on verra. Et j'espère que ça va marcher. En tout cas, il faut tout faire pour qu'on tienne cette feuille de route qui est bien faite. Mais on verra.
Et justement, par rapport à cette reculade sur le nucléaire, est-ce qu'un parc nucléaire inchangé, alors que l'on parle de transition climatique, est-ce que ce n'est pas incohérent ?
Moi, je crois qu'il faut beaucoup réfléchir à... Bon, après, il y a des choix sur quel est le bouquet énergétique qu'on choisit. Dans un moment où, pour l'instant, la consommation d'énergie électrique en France, elle n'augmente pas. Elle est plutôt en train de diminuer. Sans doute, elle va réaugmenter si on électrifie le transport, en particulier donc les voitures. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tant d'électricité en France que ça. Donc, il y a vraiment un choix qui est industriel, qui est économique, pour savoir ce qu'on fait avec les grandes entreprises de production d'électricité, qui doit vraiment être réglé dans l'année qui vient, pour savoir quels sont les choix, comment on fait. pour que justement il y ait la place pour le renouvelable et qu'en même temps on gère le renouvellement des centrales si on veut les améliorer, enfin les remettre dans les bonnes normes de sécurité, et puis surtout qu'on diminue cette dépendance au nucléaire qui est vraiment raisonnable. Il n'y a aucune raison qu'on soit dépendant d'une seule source d'électricité. Donc j'espère qu'on va avoir de bonnes nouvelles de ce point de vue.
Vous étiez très favorable à des initiatives européennes, hein. Vous dites que c'est l'Europe qui pourrait prendre un rôle de leadership dans cette question sur le dérèglement climatique et sur pour contenir justement l'effet de serre, etc., les températures. Mais aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que l'Europe rate souvent le coche. Puis en plus, il y a ce problème politique de l'Europe aujourd'hui avec ce qui se passe en Allemagne. Et toutes les réglementations sont plutôt pas très favorables aux règlements.
Oui, non. Si on regarde les réglementations qui ont été prises, notamment sur les centrales à charbon, il y a 3 mois, 4 mois, on voit que la sévérisation des émissions sur les centrales à charbon qui ont été prises par l'Europe et approuvées par tous les Européens oblige, par exemple, dans beaucoup de pays, notamment la Pologne et d'autres qui sont encore très dépendants du charbon, de fermer beaucoup de vieilles centrales. Donc, de même sur les transports, la sévérisation des standards d'émissions de voitures fait qu'on est en train d'ouvrir vraiment très largement la porte.
Oui, mais même sur les voitures, on voit bien que les normes qui sont mises en avant, là, le projet législatif de la Commission européenne, il est très en deçà par rapport aux objectifs qui sont fixés.
Oui, en même temps, s'il est appliqué, c'est vrai, hein, et ma fondation et d'autres ont fait une campagne pour avoir des standards plus élevés, plus sévères, mais en pratique, cette mesure, si elle est bien appliquée, c'est-à-dire si les constructeurs ne trichent pas, donc c'est qu'on vérifie qu'ils
ne trichent
pas.
Alors qu'ils ont beaucoup triché déjà,
voilà, exactement.
On le sait.
Et donc les nouvelles formes de vérification pour qu'on soit sûr qu'ils ne trichent pas, de fait, ouvrent la voie très largement pour les véhicules électriques. Et d'ailleurs, du coup, les constructeurs Tesla et autres ont été très contents.
Laurence Dubiana, justement, c'est quoi la solution? C'est ce que, par exemple, c'est fixer des dates, comme Anne Hidalgo l'a fait pour Paris, en disant à partir de 2025-2030, plus de voitures à essence dans Paris.
Oui, moi je crois que ces dates, pourquoi? Parce qu'ensuite les constructeurs font leur travail, quoi. Ils disent, ben voilà, il faudra qu'à telle date on soit prêt. Donc ces effets d'annonce précises, si elles sont crédibles, et sur le véhicule électrique aujourd'hui, vraiment, les constructeurs y croient, eh bien ça a cet effet d'entraînement. Et du coup, on voit d'ailleurs, hein, je suis pas une spécialiste d'automobile, mais le dernier grand salon automobile en Allemagne, il y avait un nombre de véhicules électriques, enfin de modèles impressionnants, alors que 2 ans après, c'était quasiment tabou. Donc je pense que ces dates, et le plus rapproché possible, bien sûr, il faut qu'elles soient réalistes quand même, sont très importantes. Donc je trouve en plus que ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les villes peuvent avoir un rôle de transformation sur le transport complète, très important, comme Anne Hidalgo le fait.
Oui, pour revenir un instant sur les centrales à charbon, la France est blâmée pour aider certains pays à améliorer leurs centrales déjà existantes. Est-ce que c'est pas paradoxal, les améliorer pour qu'elles polluent moins? Au niveau du développement, au Sénégal par exemple, la France est intervenue pour améliorer les choses.
Il y a un débat qui est valide, hein. L'Agence française de développement, oui. Je préside son conseil d'administration, n'investit plus du tout dans aucune nouvelle centrale à charbon. Ça, cette décision a été prise en 2013. Bon, après, se pose une vraie question, et je dois dire, on n'a pas encore tranché sur ces projets, enfin sur un des projets qui sont aujourd'hui critiqués par les organisations non gouvernementales, et c'est très bien, hein, qu'il y ait un débat là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, comment on oriente l'aide au développement? Moi, j'en suis ravie. Mais il y a vraiment une question d'opportunité. Est-ce qu'au fond, on laisse se dépenser inutilement la chaleur produite par une centrale à charbon en Chine, ou est-ce que on prête, puisque la Chine, on ne l'aide pas, évidemment, on prête pour que cette chaleur soit utilisée au lieu de ne servir à rien? C'est une vraie question. À ce stade, je pense que c'est utile de ne pas laisser perdre cette chaleur et de permettre à une autre centrale à charbon de fermer parce qu'elle ne servira plus au chauffage. Mais c'est un vrai débat.
C'est un vrai débat.
C'est un vrai débat.
Laurence Hubert, nous allons nous interrompre quelques instants. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Laurence Tubiana, merci d'être l'invité d'International avec RFI et en partenariat avec le journal Le Monde. Alors, en juin dernier, le président Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Il n'a jamais caché son climato-sceptisme. On écoute ce qu'il disait avant même d'être élu sur la question du réchauffement climatique.
Il est censé faire 21 degrés et on gèle ici. On parle de réchauffement climatique, où ça? On en a besoin, on gèle.
Et un autre petit document, les climato-sceptiques comme Donald Trump ne manquent pas aux États-Unis. On va voir avec ce petit document sur ce qu'on appelle les rolling calls.
Nous sommes partis à la rencontre de ces anti-écolos. Dans le Michigan, Chuck, 34 ans, est l'un d'eux. Cette passion s'appelle le rolling coal, traduisez charbon roulant.
Ça, c'est de la puissance. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est génial. Ça envoie. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez toute cette fumée noire dans le rétroviseur? C'est juste un symbole de puissance. Vous ne vous sentez pas coupable de brûler tout ce diesel?
Non.
Pas du tout. Et quand vous voyez toutes ces images sur le réchauffement climatique à la télé, vous en pensez quoi? C'est triste. Mais pour moi, c'est un coup des écologistes. Et je ne sais pas à quel point ce qu'ils disent est vrai. Parce que tout ce que les médias essayent de nous faire gober, je pense que c'est 90% de conneries.
Laurence Tubiana, cette Amérique-là, c'est celle qui a élu Donald Trump, elle est climato-sceptique. Il faut compter avec elle. Comment changer leur comportement et comment les convaincre que les médias ne mentent pas, que les politiques ne racontent pas n'importe quoi?
Il y aurait une façon assez simple pour ce monsieur, on met ses enfants dans la cabine et on mesure la pollution de l'air qu'il respire. Je pense que ça lui donnera déjà une idée de ce qu'il est en train de faire. C'était quelque chose qu'on aurait généralisé d'ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression que les voitures polluent dehors, dans la rue, c'est vrai, les piétons, etc., mais dans la voiture, c'est pas mieux. Donc je trouve qu'on devrait lui proposer de mesurer la qualité de l'air de sa voiture avec ses enfants, s'il en a.
Est-ce que vous pensez, Laurence Tubiana, qu'il y a vraiment un défaut de compétence totale dans l'équipe de Donald Trump, ou alors c'est simplement de la mauvaise foi assumée, parce que...
Oui, c'est de la mauvaise foi assumée. D'abord, il y a une équipe autour de lui, où il y a d'ailleurs les négociateurs du climat, il en a encore, sont des gens tout à fait compétents. Mais c'est délibéré, c'était préparé. Il y a quand même beaucoup de fondations, de moyens de communication qui ont préparé ce climato-scepticisme. C'est pas récent, hein, c'est plus de 15 ans de préparation. On l'a vu juste avant Copenhague, lorsque notamment les institutions et les moyens de communication qui étaient financés par de grandes richesses pétrolières aux États-Unis ont commencé à semer le doute de façon tout à fait organisée. Il y a un livre formidable d'une politologue américaine, Naomi Oreskes, qui s'appelle Les marchands du doute, et qui montre de façon intéressante que ceux qui sont les climato-sceptiques aujourd'hui sont les mêmes scientifiques, entre guillemets, qui dénonçaient le lien entre les cancers du poumon et la consommation de tabac.
Oui.
Donc tout ça est bien organisé, ça fait plus de 15 ans que ça dure, avec beaucoup d'argent, plusieurs milliards de dollars ont été dépensés dans cette communication, et les gens sont arrivés très préparés. Scott Pruitt, il est arrivé très préparé à ses fonctions. Donc je ne sais pas ce que pense le président Trump, mais l'équipe autour de lui savait pourquoi elle venait là, pour faire des choses très précises et à toute vitesse. Parce que on parle beaucoup du climat, mais il y a toutes les législations environnementales qui sont détruites une par une aujourd'hui aux États-Unis, avec des conséquences tout à fait dramatiques.
Oui, Laurence Tubiana, justement, est-ce que vous pourriez parler un peu de des conséquences? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit depuis l'arrivée de Trump une élévation du niveau de production de CO2 dû au fait que, je ne sais pas, on donne des permis de forer en Alaska, qu'on permet de forer dans des parcs naturels, etc.?
Alors, pour ce qui concerne les émissions américaines, c'est un peu trop tôt. D'abord parce qu'elles étaient de toute façon orientées à la baisse, tout simplement parce qu'il y a ces améliorations des renouvelables, parce qu'il y a beaucoup d'États importants, hein, comme la Californie et d'autres, ou l'État de Washington, ou même l'État de New York, qui vont dans ce sens. De toute façon, l'économie américaine, elle va dans le sens de moins de charbon. Bon, le charbon est trop pas du tout rentable. Ça s'est remplacé par du gaz. Et il se trouve que, bah, par ailleurs, il y a une amélioration des technologies. Donc, on ne le voit pas encore. Et la remontée des émissions auxquelles on a assisté cette dernière année en particulier, elle vient de la relance de la croissance chinoise. Mais donc, pour l'instant, non. Mais bien sûr que s'il n'y a pas de renversement de la politique américaine, disons, à l'échéance des nouvelles élections présidentielles, là on verra l'impact, bien sûr. C'est quand même, c'est quand même le deuxième émetteur mondial. Hein.
Notamment sur les 2 degrés, l'objectif qui a été fixé sur...
Ben oui, parce qu'on est une course contre la montre. Il faut qu'on arrive, pour en tout cas les pays développés, à avoir cette neutralité carbone, dont on va essayer de lancer une coalition pour cette neutralité carbone à Paris le 12 décembre. Il y a un certain nombre de pays qui disent, comme la France, comme d'autres, les Pays-Bas, l'Éthiopie, on veut plus, on veut diminuer drastiquement nos émissions d'ici 2050. Et c'est vrai qu'il y a cette question de course contre la montre, c'est ça qui est angoissant.
Laurence Taubiana, par exemple, les incendies en Californie actuellement, pour vous, est-ce que c'est absolument une manifestation du réchauffement climatique? C'est sans aucun doute. Ou est-ce qu'on a encore des doutes?
On n'a pas de doute. C'est toujours des probabilités. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est beaucoup d'années de sécheresse consécutives qui font que ces incendies, on ne peut pas les arrêter. Donc, en tout cas, pour la Californie, c'est clair. L'État, leur analyse des risques climatiques ont montré que ces incendies en font partie, puisque aujourd'hui leurs réserves d'eau des glaciers ont beaucoup diminué. Donc oui, on ne peut pas nier ça, et maintenant plus c'est un mois près, je crois.
J'en reviens aux 2 degrés, vous disiez ça va être difficile à atteindre, c'est déjà trop tard.
C'est difficile. Alors, il y a beaucoup de débats.
Il y a eu un texte publié par des scientifiques.
Voilà, pour dire c'est trop tard. D'autres qui disent non, en fait, il y a des fenêtres d'opportunité. Et bon, d'une certaine manière, là, pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a encore des possibilités, mais elles sont petites. Et il faut des actions très importantes et très rapides. D'où l'intérêt d'essayer, dans ces 2 prochaines années, de changer quand même, d'accélérer vraiment non seulement la prise de conscience, mais les actions. Et puis, c'est ce que je disais au début, de toute façon, on est embarqué. Et puis, c'est pas pareil. 2, 2,5, 3, c'est pas pareil. Donc, de toute façon, il faut faire le maximum et pas se fixer sur on va y arriver ou pas, parce que de toute façon, bon, le destin sera ce qu'il est et notre performance sera ce qu'elle est. Mais il faut pas attendre une minute pour agir très rapidement.
Mais alors, très concrètement, le désengagement américain, c'est aussi de l'argent en moins, notamment à destination des pays en voie de développement, qu'il y a des engagements pour les aider. Hein. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? On sait que le président Macron a dit qu'il ne manquerait pas de l'argent, notamment au groupe d'experts internationaux, mais comment compenser ce manque?
Alors c'est pas facile. En même temps, l'argent public américain, dans cette fameuse fourchette des 100 milliards qui sont à la fois composés de
l'argent fixé à
public et privé, donc on est assez proche. Les évaluations de l'OCDE tournent aujourd'hui autour de, on est à 80 ou 85 milliards.
Mais ça devait être plancher, les 100 milliards.
Et puis que ça devrait
augmenter ensuite.
Mais au fond, le problème n'est pas véritablement là, parce que ces 100 milliards, par rapport aux plusieurs dizaines de trillions d'investissements qu'il faut faire dans le monde entier sur l'énergie, sur les transports, sur l'agriculture et la conservation de la forêt, ces 100 milliards, de toute façon, c'est plutôt un chiffre politique et symbolique.
100 milliards de dollars par an.
Par an, c'était un chiffre symbolique, politique, pour montrer que les pays développés reconnaissaient une dette, au fond, vis-à-vis des pays en développement. Donc l'essentiel, c'est que de l'argent que tous les pays en développement, notamment, et tous les acteurs économiques aient accès à des conditions de financement possibles, non pas trop chères, pour pouvoir investir dans cette croissance verte, dans ces énergies renouvelables, dans ce transport propre, qui de toute façon est bénéfique. Mais donc à la fois c'est politiquement désastreux, ce retrait américain, c'est incroyable qu'un pays se retire d'un engagement aussi important.
Mais vous
et en
craignez
même temps, financièrement, c'est pas le problème majeur.
Vous craignez l'effet contagion? Est-ce que ça pourrait démobiliser certains autres États qui se disent, ben voilà, les États-Unis ne se sentent pas liés par cet accord, ben après tout, nous non plus.
J'avais peur de ça, bien sûr. Mais ce qu'on a vu, au fond, depuis un an, c'est le contraire. On n'a vu aucun pays se dégager de l'accord de Paris. Au contraire, ils ont tous signé et ratifié, puisque maintenant, je crois qu'il n'y a plus que les États-Unis qui sont en dehors. Bon, il y a encore des pays qui n'ont pas ratifié. Je crois que c'est le cas de la Turquie. Je ne vais dans aucun pays, même avec des capacités vraiment très différentes, où les pays ne sont pas engagés dans leur action. Alors, elle est plus ou moins solide, plus ou moins ambitieuse. Et on a vu, par exemple, de très grands pays comme la Chine ou l'Inde dire qu'ils allaient non seulement continuer, mais prendre un certain leadership dans cette bataille. Donc, à tout le moins, l'accord de Paris, il est résilient. Il est d'autant plus résilient, et c'était conçu comme ça. C'est pas seulement les gouvernements qui s'engagent. C'est les villes et les régions, c'est quand même des pouvoirs, et qui peuvent faire beaucoup, comme je le disais tout à l'heure sur le transport, mais c'est vrai aussi sur les sources d'énergie, l'efficacité énergétique, et voire l'alimentation, bientôt. Et en même temps, les entreprises qui se disent de toute façon, on va y aller parce que c'est ça le futur économique.
Alors justement, cet engagement de...
Là-dedans, vous considérez que la Chine est un pays riche ou un pays en développement ?
Bien. On écoute Xi Jinping, il dit qu'il sera d'ici 2025 ou 2030 la première puissance mondiale. Donc bon, voilà.
Donc on peut lui demander de l'argent.
Donc on peut lui demander, et il en met. Et l'argent, et la Chine en met. Bien sûr qu'on peut lui demander.
Mais vous souhaitez un leadership de la Chine sur cette question ?
Moi, je pense que je suis pour les leaderships partagés, personnellement. Et je pense que les Européens doivent effectivement engager une vraie discussion politique avec la Chine sur ce qu'on fait sur le climat. Je n'arrête pas d'appeler à ça et j'espère que je serai entendue.
Alors, juste pour revenir sur les initiatives privées, là, vous nous l'avez dit, hein, mardi matin, vous allez introduire des philanthropes, les grands, notamment Michael Bloomberg auprès du président Macron. Mais vous pensez que ces initiatives privées peuvent contrebalancer quand il n'y a pas de volonté au plus haut sommet de l'État ?
S'il n'y a pas de volonté au sommet de l'État, non, bien sûr. Bon, encore une fois, les États-Unis, c'est une période particulière. D'une certaine manière, on a construit tout l'accord de Paris pour supporter ces chocs politiques. Bon, il y en a un, et j'espère qu'il sera pas de longue durée, que les États-Unis vont revenir. On fait tout dans la négociation, d'ailleurs, de la poursuite des détails qu'on finalise pour l'accord de Paris pour laisser la porte ouverte aux États-Unis. Donc, on attend qu'ils reviennent, au fond.
Un pays comme ça ne peut pas bloquer l'avancée de décisions prises par les autres signataires. Non. Parce que, en fait, lorsqu'il a envoyé sa délégation à Bonn, en novembre dernier, Donald Trump disait que c'était pour surveiller que les intérêts américains ne soient pas menacés.
Bah oui, de ce point de vue, c'est pas faux. L'accord de Paris, il fait un équilibre entre beaucoup d'intérêts, un équilibre très, très, très délicat. Les négociateurs américains ont veillé à ce que cet équilibre soit maintenu, et c'est honnête, c'est vrai, c'est bien, et c'est vrai. Donc, mais ils n'ont pas bloqué les décisions, et ils vont pas les bloquer l'année prochaine.
Alors, loin des accords de l'accord de Paris, hein, mais une question que vous maîtrisez, puisque vous êtes issu de l'agriculture, vos premiers postes, vous avez une vraie connaissance dans ce domaine, et vous parlez aussi de leadership partagé avec l'Europe, mais quand on voit, par exemple, sur, ça n'a rien à voir avec le dérèglement climatique, mais la question du glyphosate, c'est une grosse question d'actualité. La Commission européenne a revoté pour 5 ans l'utilisation de cet herbicide controversé. On n'y comprend plus rien sur cette affaire de glyphosate.
Bon, je pense que quand même, on reconnaît que ces substances sont dangereuses. On n'a pas forcément le
cancérogène et un perturbateur endocrinien.
Endocrinien, que donc il faut quand même qu'on essaye de s'en débarrasser. Donc moi, ce qui me choque en ce moment dans la discussion, c'est pas tellement que il vaut mieux. Et d'ailleurs, je trouve que l'attitude de la France là-dessus est bonne.
Alors, qui est l'attitude de 2 à 3 ans, interdire à 3 ans.
Mais surtout, on arrête après. Voilà. C'est ça qui est important. Pour l'instant, la discussion
européenne... Avec des alternatives, mais encore faut-il les trouver.
Mais si on les cherche, on va les trouver. Vous savez, dans beaucoup de technologies, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Hein. Encore une fois, le solaire ou l'éolien, il y a 20 ans, c'était trop cher ou impossible. Maintenant, ça devient l'énergie la moins chère du monde. C'est pareil pour l'agriculture. On s'est engagé dans une voie qui utilise beaucoup, beaucoup d'intrants chimiques pour produire. On peut faire autrement. Et or, quand on regarde les pourcentages de financement de recherche sur les alternatives, ils sont encore faibles. Donc c'est ça qu'il faut développer rapidement maintenant. Or ça, c'est vraiment une des solutions de lutte contre le changement climatique. Tous ces intrants sont des facteurs de réchauffement. Et donc il faut changer de modèle agricole. Et en plus, oui, ça ne réussit pas si bien que ça aux agriculteurs.
Justement, on diminue les subventions à l'agriculture bio. et en même temps, on demande à faire une agriculture moins agressive.
Il faut être cohérent. Et moi, je vais surveiller de près, d'ailleurs, comme beaucoup de mes collègues dans les universités, les think tanks ou les fondations, que la réforme de la, la nouvelle phase de politique agricole commune qui va se négocier, est en train de se négocier, soit cohérente par rapport
à
ça.
Mais là, je ne parle pas au niveau européen, je parle au niveau français.
Au niveau français,
on dit plus de glyphosate, mais on n'aide plus le bio. Donc...
Moi, je pense qu'il faut vraiment. On voit que là. En plus, c'est pas très cohérent de ce point de vue, parce que il nous faut. Enfin, on importe aujourd'hui beaucoup de produits biologiques en France. Les agriculteurs bio sont ceux qui s'en sortent le mieux. Quand on regarde leurs revenus, donc il faut aller dans cette direction. Bon, après, je ne suis pas ministre de l'Agriculture. Donc.
Pour revenir sur le changement climatique et rester sur la question de l'aménagement des sols, il y a la question de la déforestation. On sait que les forêts sont un puits de carbone, enfin elles emmagasinent du carbone, et donc c'est un merveilleux moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Alors pourquoi on assiste toujours à une poursuite de la déforestation? Qu'est-ce qui manque pour l'empêcher? Parce que je crois qu'en 2016, elle a augmenté, la destruction de forêts a augmenté de 50%.
Oui, on avait eu une grande amélioration, notamment avec les dernières années du gouvernement de Dilma Rousseff, parce que le gros enjeu, il est quand même au Brésil, pas seulement, il y a aussi le bassin du Congo, les deux grands bassins forestiers qui restent. C'est très difficile de lutter contre la déforestation parce qu'il y a beaucoup d'activités. D'abord, il y a beaucoup d'activités illégales de forêt. Alors, c'est pas seulement de la forêt, c'est les mines d'or. Enfin, c'est beaucoup de. C'est aussi l'élevage et on en voit souvent des gens déforester, des petits agriculteurs qui s'installent ou des gens sans terre. Et puis après, ensuite, on installe des grandes entreprises de production de viande. Donc, mais c'est très difficile et il faut un État très organisé. Il faut des moyens de surveillance. Il n'y a pas de miracle. Le contrôle de la forêt, c'est d'abord de donner des incitations à ceux qui sont là pour qu'ils puissent vivre sans détruire la forêt. Et ensuite, c'est la surveillance. Et c'est ça qu'il faut remettre.
Pardon, il n'y a pas un manque de volonté de. Quand on voit en Afrique, par exemple, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on plante du cacao à la place des.
Bien sûr.
Et donc, c'est l'État qui en bénéficie.
C'est pour ça que là, je ne vois pas de solution. Alors, il y a des choses bien qui se passent. La certification des produits forestiers pour qu'on soit sûr que le bois qui est vendu ne soit pas le résultat de la déforestation. Pareil pour les plantations d'huile de palme aujourd'hui en Indonésie. Donc, on peut faire des choses du point de vue des marchés et de la consommation. Mais s'il n'y a pas une volonté politique, c'est pas possible. Donc il faut être que les gouvernements soient cohérents, et quand ils ne sont pas cohérents, il faut le dire.
Laurence Hubiana, vous venez de parler de l'Indonésie. Alors je vous propose cet extrait d'un document qui a été réalisé en Indonésie sur l'île de Java. Il vous a marqué et je voudrais que nous en écoutions, regardions un extrait.
Aujourd'hui encore, nous avons du mal à réaliser ce que nous avons vu ce jour-là. Assis dans cette barque, en compagnie de Maman le pêcheur, nous avons flotté des heures sur ce tapis d'ordures. Avec la chaleur et l'humidité, l'odeur est pestilentielle. Il y a quelques mois, Maman a entrepris une reconversion impensable. Aujourd'hui, il ne pêche plus de poissons, mais du plastique.
Avant, il y avait beaucoup de poissons, et ça nous suffisait pour vivre. L'eau était propre. Maintenant, il n'y a plus de poissons du tout. La rivière, c'est devenu une poubelle.
Sans aucune protection, toute la journée, il plonge ses mains dans ce bouillon de pollution. Ces petites bulles qui apparaissent à la surface, c'est la putréfaction des ordures.
Laurence Hubiana, l'Indonésie est signataire de la COP21, mais c'est aussi le 8e émetteur mondial de gaz à effet de serre. On se demande, quand on voit ces images, quand on entend ces témoignages, on se dit que le chemin va être extrêmement long.
Oui, c'est long. Non, c'est des images très impressionnantes. Et puis en plus, si on pense aux océans de plastique qu'on voit dans les océans, c'est
C'est une énorme bataille, mais c'est aussi...
On me sent un peu secoué, bouleversé par ces images.
Oui, c'est parce qu'on voit deux siècles de développement complètement... Enfin, aberrant, ça a fait beaucoup de bien aussi. Hein, les gens mangent mieux, la durée de vie a été prolongée. Il y a des choses positives, évidemment, qui se sont passées. Mais c'est renverser complètement un modèle par un autre. Bon, ça se fait pas comme ça. Une révolution industrielle, ça arrive pas comme ça. Ça se fait jamais dans la douceur non plus. Donc c'est vrai que c'est frappant. Et bon, je suis partagée. J'ai bien sûr comme tout le monde, quand on regarde ces questions d'environnement, on est à la fois anxieux, presque découragé, et en même temps Justement pas. Mais c'est frappant, oui. Et quand on accumule les images de pollution des rivières en Chine, là, dans beaucoup d'endroits du monde, et quand on voit même quand on va dans les Andes et qu'on voit la pollution même très haut, bon, voilà.
Laurence Tumiana, il y a un continent qui en ce moment fait l'objet de beaucoup d'intérêts, de l'exploration pétrolière, des bases militaires, du transport maritime, etc., c'est l'Arctique. Est-ce qu'il faudrait est-ce qu'il faut sanctuariser l'Arctique, proposer une sorte de traité où on n'y touche plus, comme d'ailleurs c'est le cas dans certaines îles au large de la Norvège, et comme c'est le cas de l'Antarctique, mais l'Arctique, on sent bien que ça va devenir une voie de passage commerciale et que les dernières réserves de pétrole, elles sont là.
Alors, c'est très important d'arriver, c'est pas facile, à sanctuariser et à arrêter la prospection d'hydrocarbures dans l'Arctique. Et ma fondation, d'ailleurs, avec d'autres, on finance toutes les actions possibles pour essayer d'arrêter cette folie, dont on sait que c'est un milieu très fragile, que c'est très dangereux d'exploiter le pétrole là, parce qu'on aura des fuites, on aura beaucoup de... Et je vois qu'il y a quand même certaines compagnies pétrolières qui commencent à hésiter, ou qui n'y vont plus, mais il faut faire pression sur les gouvernements. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est pas facile, parce que pour l'instant, aucun ne veut renoncer. Mais je vois qu'en Norvège, il y a un vrai débat qui s'est ouvert. Ce sera évidemment plus difficile en Russie, mais au Canada, mais il faut absolument... Ça me paraît une frontière d'action extrêmement importante.
Je voudrais savoir, comment est-ce que vous percevez la capacité des individus à s'affronter aux grands industriels, aux grandes compagnies? On a vu la semaine passée un fermier péruvien porter plainte contre le géant énergétique de l'Allemagne, et cette plainte a été jugée recevable. Donc lui, il craint que ses terres disparaissent sous les eaux d'un glacier dans les Andes. La plainte est jugée recevable. Vous trouvez que c'est anecdotique ou que c'est un précédent important?
Non, pas du tout. Vous savez, les individus, surtout quand ils s'organisent, peuvent faire beaucoup de choses. Mais c'est comme ça aussi que les changements arrivent. On le voit dans l'histoire à tous les moments. Et donc, cette question de la judiciarisation, le recours à la justice pour faire avancer des sujets de dommages environnementaux et faire réfléchir et les entreprises et les gouvernements sur ce qu'ils font, je pense que c'est une grande voie. C'est pas la seule, il y en a beaucoup, il y a l'information, il y a les travaux des scientifiques, il y a les campagnes des organisations non gouvernementales ou des citoyens sur la qualité de l'air, en Chine ou en Inde. Et il y a ça, de dire au gouvernement ou aux entreprises, vous êtes responsables et vous ne pouvez pas échapper à cette responsabilité. Aujourd'hui, je ne sais plus, je ne sais plus combien il y a de cas, mais il y a énormément, sans doute, plus d'une cinquantaine, enfin entre 50 et 100 cas aujourd'hui dans le monde de citoyens qui attaquent ou des entreprises ou des gouvernements.
Avec l'aide d'organisations non gouvernementales.
Oui, d'associations de juristes qui les aident pour faire les dossiers. Il y a une petite jeune fille du nord de l'Inde qui a déposé une plainte auprès du tribunal vert qui dépend de du tribunal de l'environnement, qui dépend de la Cour suprême indienne, pour montrer que le gouvernement ne répondait pas. Et ce cas a été accepté. Il y a aussi les actionnaires dans les entreprises. Les actionnaires d'Exxon ont réussi à faire voter des motions pour dire des résolutions pour montrer que Exxon est responsable de la contribution au changement climatique, parce qu'ils savaient, ils avaient toutes les données scientifiques et qui étaient disponibles dans l'entreprise, ils ont plutôt essayé de mentir. Donc je crois beaucoup à cela, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint les fondations.
Alors c'est sur cette note optimiste que nous allons nous séparer. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Laurence Tubiana, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci Sophie, merci Christophe. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.
Bye.